Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, c'est autant de pays que Laurie et Rémi sont partis découvrir.
Le jeune couple nous révèle les spécificités de chacun de ces territoires, un voyage qui ouvre à d'autres horizons où se rencontrent des cultures diverses.
On te promet plage paradisiaque, montagne de fou, forêt tropicale, bon ben voilà, ça suffit à me convaincre pour y aller quoi, largement.
Et il y avait aussi cette volonté d'avoir une vraie rupture avec tout ce qu'on connaissait et donc d'être confronté clairement à une culture qui n'est pas l'opposé de ce qu'on a connu mais qui est vraiment différente. Je m'appelle donc Laurie, j'ai 25 ans, je vais sur mes 26 là. Et je suis partie donc avec Rémi, qui est mon copain, et on est partis ensemble donc en novembre pour voyager. On n'avait pas trop d'itinéraire de prévu, mais une grande vision. On savait qu'on voulait faire plusieurs pays en Asie du Sud-Est. Et ensuite, on s'est adapté au jour le jour. On est arrivé en Thaïlande, à Bangkok. Ensuite, nous sommes partis au Cambodge. On est ensuite arrivé dans le sud du Vietnam, on a remonté le Vietnam. On est arrivé ensuite au Laos, où on a pris un vol pour aller jusqu'à Singapour. Et ensuite remonter à travers la Malaisie et retourner en Thaïlande, où nous avons pris du coup notre avion de retour. Sur une durée de 5 mois et demi. Et c'était vraiment l'objectif, c'était de partir longtemps, le plus longtemps possible, pour bah, toujours dans cette optique de rupture du quotidien, rupture du... se confronter aux différents, quoi. Voilà.
T'arrives déjà... il y a les panneaux en anglais, heureusement, mais sinon c'est en thaï. L'alphabet, c'est pas le même. Bon, l'anglais, ça va, ils parlent tous l'anglais en Thaïlande, du coup, pour communiquer, c'est pas dur. Et on prend un taxi, tu vois, pour faire l'aéroport, l'hôtel. On nous avait dit des ordres de prix, tu vois, et on arrive au taxi, le mec, il nous double le prix. Le système, c'est tu prends un ticket, t'attends que le taxi arrive, et après tu négocies avec lui ou pas. Tu vois, donc s'il veut pas négocier, faut ressortir, reprendre un ticket, reattendre. Et la négociation, typique d'Asie, il te dit non avec le sourire, et tu restes quoi. C'est juste non, il sourit, et tu pars quoi avec lui quand même, et let's go, voilà. Et là tu te dis ok, d'accord, c'est pas la France. T'arrives sur Bangkok, déjà l'autoroute pour aller à Bangkok, il y a des énormes panneaux publicitaires. Mais des énormes panneaux, je te dis, ils font peut-être 20 mètres de long sur 6 mètres de haut. Tu vois, c'est une piscine le truc. Donc ça, c'était bizarre. Et puis tu vois la forêt de gratte-ciel. J'ai jamais vécu dans une ville où il y a des gros gratte-ciel comme ça. Hein. Et donc là, c'est un joli choc. Hein.
Donc on descend de l'avion et on sort de l'aéroport. Donc les portes coulissantes s'ouvrent. Là, on sort, il est sur les coups, je crois, de 18h, donc la nuit est tombée. Il fait très chaud, mais très humide, donc presque un sentiment de... On manque un peu d'air, quoi. Enfin, direct, moi, ça a été... Hop, bim, différent, quoi. Tu n'as jamais connu ce climat-là, et là, va falloir s'adapter à ça, quoi. On a eu un choc par rapport au niveau de vie qui est très différent d'une autre. Une fois qu'on est arrivé au Cambodge, on se dirige vers la capitale. Donc on se dit que ça va être une capitale sensiblement comme Bangkok en Thaïlande où il y a du coup une grosse effervescence. C'est chaotique, mais c'est un chaos organisé. Là, à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge, on découvre la pauvreté un peu. C'est une image qui m'a marquée et qui, je pense, me marquera longtemps. On voit une famille en fait, qui dort dans un tuk-tuk, donc si vous voulez, un assemblage de trois hamacs où du coup, tu as trois personnes, donc on pourrait supposer le père, la mère, l'enfant, qui dorment en fait, dans ce tuk-tuk, à ciel ouvert, pas de fenêtre, etc. Et c'est dans la rue et c'est comme ça. Et c'était pas du tout un cas isolé, quoi. Enfin, c'est quand même... Enfin voilà, la capitale économique du pays, etc. Et on voit en fait que non, des gens peuvent vivre comme ça.
On avait plus de pauvreté à Phnom Penh, qui est donc la capitale du Cambodge, qu'à Siem Reap, où il y a les temples d'Angkor. Et du coup, c'est très touristique au final. En plus, on sait que du coup, Siem Reap, là où il y a les temples d'Angkor, Ça a été refait pendant le Covid. Il y a des trottoirs,
ouais.
Ce qui n'est pas le cas partout, tu vois, par exemple. Genre, il y a des villes, il n'y a pas de trottoirs. Tu marches sur le côté de la route et il y a les... tout ce qui peut circuler, circule. Tout le voyage, c'est moi qui conduisais. Franchement, entre les pays, il y a des différences. Tu vois, déjà, Thaïlande, tu roules à gauche. Donc déjà, toutes les priorités à gauche, plus tout le monde est en scooter, sans casque. T'es tranquille, tu vois, des fois, tu vois, ils sont quatre sur le scooter, c'est pas un souci. Par exemple, il y a un croisement avec un feu rouge, tu vois, de la priorité à gauche. Si toi, tu veux aller à gauche et qu'il y a le feu est rouge, c'est pas un souci, tu crames le feu. C'est normal, tout le monde fait ça. Et après, t'inverses, tu te mets à droite. Et là, j'ai conduit à Phnom Penh. Et là, c'était le plus chaotique où j'ai conduit. C'est vraiment la capitale du Cambodge. Conduire là-bas, c'était Mario Kart, vraiment. Tu montes sur les trottoirs, tu fais du contresens. Mais tout le monde fait ça, quoi, tu vois, c'est un truc comme ça. Genre pour traverser les intersections, les gens ne s'arrêtent pas. Enfin, tu dois passer au milieu des intersections. Du coup, moi, ce que je faisais, je me cachais derrière une voiture. La voiture me faisait l'ouverture, tu vois, et moi, je me cachais derrière pour pouvoir traverser. Parce que... Et bizarrement, on sait qu'il y a beaucoup d'accidents, tu vois. On n'en a vu aucun. Les routes au Laos et au Cambodge, c'est de la terre. Tu roules sur de la terre et tu vois le pare-brise, il y a des gros impacts. Parce que bah, du coup, il y a des caillasses qui tapent dessus, quoi, tu vois.
Au Vietnam, on arrive à Hanoï et à notre hôtel, l'hôte avait laissé des notes, des indications pour nous aider à traverser la route. Aussi simple que ça. Voilà, il faut que vous traversiez avec confiance, il ne faut pas s'arrêter. En fait, tu te rends compte que pour passer, tu lèves les yeux au ciel, tu fais une petite prière et tu traverses. Et finalement,
et en fait,
le trafic va s'organiser autour de ton passage sans s'arrêter. Mais ils vont en fait t'esquiver. Si tu respectes pas ces règles implicites là-bas, limite tu te mets plus en danger qu'autre chose, tu vois.
C'est clair.
Le Laos est sublime. Les paysages et l'environnement du Laos est vraiment magnifique, sublimissime. Mais il y a un vrai point, et que j'ai pas forcément senti ailleurs, c'est que je ne souhaitais vraiment pas qu'il m'arrive de pépins de santé au Laos. Parce que première fois que... On voit des dispensaires qui sont un peu de briques et de broc. On voit pas vraiment d'hôpitaux. Tu sens qu'ils ont pas les mêmes accès que nous en termes d'infrastructure.
Laos, c'est le seul endroit où on a fait un tour qui est connu aussi, s'appelle la boucle, le plateau des Bolloven. Tu loues un scooter et tu le prends pour 3 jours et tu vas faire une boucle, tu vois, et tu reviens. Et c'est le seul endroit où on nous a dit, vos scouts, vous les garez à l'intérieur des hôtels si vous pouvez, vous les accrochez, tu vois. Alors Thaïlande, je t'explique, typiquement, je laissais mon scooter, les clés dessus, le casque dessus, et j'oubliais les clés dessus, je reviens 3 heures après, il est toujours là, le scooter, tu vois. Le loueur me disait, moi, tous les mois, je me fais voler 2 ou 3 scooters, c'est comme ça.
Et pourquoi? Bah parce que, simplement, un Laotien, s'il vole un scooter et qu'il arrive à le revendre, il fait vivre sa famille, quoi. C'est le pays qu'on a visité où le salaire moyen était le plus bas.
Alors la Thaïlande, hyper bon. Bon, évidemment, le spicy tient sa réputation, tu vois, c'est pour de vrai. Le Vietnam, ça regorge de spécialités locales de ville, tu vois. On retrouvait un peu ce truc de France où t'as la spécialité de cette région, la spécialité de ce petit village ou tout ça. Et bien ça, tu peux le retrouver au Vietnam aussi. Donc c'était trop bien, vraiment. Tu goûtes vraiment des goûts, des textures de là-bas, vraiment trop cool. Mais tu vois, le Cambodge ou le Laos, par exemple, même la Malaisie aussi au niveau plat, c'est pas les endroits où j'ai le mieux mangé, quoi. Les plats laotiens, ils ont une espèce de salade, j'ai oublié le nom de cette salade.
Lap.
Lap, ouais,
lap,
c'est ça.
L-A-2-P.
Le Cambodge, ils ont 2 plats qui sont assez phares. Ils ont un plat qui s'appelle le Lok Lak. C'est du bœuf avec une sauce au poivre. Parce qu'il y a une belle production de poivre au Cambodge, par contre, ça c'est vraiment cool. Et un espèce de curry de poisson aussi qui s'appelle le...
Hamok.
Le Hamok, voilà. Ça, c'est bon.
C'est une cuisine qui tranche tout à fait de nous, tout ce qu'on a pu connaître depuis le début. On a de la chance avec Rémi, on aime bien manger, on a quand même des facilités à pouvoir quand même tout manger, donc ça c'est très chouette. Et enfin, c'était un voyage, et notamment au Vietnam, le Vietnam a une richesse culinaire, on ne penserait pas. Quand même, on se rend compte que les plages horaires sont décalées par rapport à nous. Nous, Européens, on vit, on va dire, entre 9h et 18h. Dans les pays qu'on a pu visiter, c'est plus
et
la
plutôt,
journée
ouais.
démarre à 6h du matin, mais à 6h du matin, les gens sont opérationnels, ils sont dehors, quoi. Et donc, bah, les marchés commencent très tôt.
Tu vois, dès que tu changes de pays, t'as hâte de voir c'est quoi les spécialités.
Ouais. Enfin, en vrai, c'était le paradis parce que même en termes de fruits et légumes, enfin, les jus de fruits, mais tu pètes un câble, tu découvres ouais, des nouvelles saveurs, aussi. Des nouvelles textures, enfin, c'est...
Des nouveaux fruits, tout simplement.
Des nouveaux fruits, enfin, ouais, mais c'est trop bien.
Moi, il y a une brochette, Rémi, je pense ouais. qu'elle est suspecte, je sais pas ce que c'est, mais c'était vendu comme du poulet, j'ai croqué dedans que du cartilage. Je pense que c'est le seul truc que j'ai été obligé de recracher ouais. direct. C'est le de tout le voyage, c'est le seul truc où... C'était en Thaïlande, pour le coup. Mais dans la rue hyper touristique, tu vois. C'est Khao San Road, c'est à Bangkok. C'est la rue touristique. En fait, c'est un enchaînement de boîtes, mais des boîtes à ciel ouvert, tu vois. Donc, ça envoie 120 décibels dans la rue, les uns à côté des autres. Donc, c'est un espèce d'énorme chaos. Et là-dedans, bah, comme partout, il y a des petits vendeurs ambulants. Et on passe dedans parce qu'il faut la voir, cette rue, tu vois. Tu vas là-bas, tu vas quand même la voir, à quoi ça ressemble. Et là, une petite brochette, hop, je croque dedans. Infâme.
On était un peu aussi venu là pour la part d'histoire qu'on n'avait pas forcément, et notamment au Cambodge. En fait, le Cambodge a subi un génocide énorme qui a ravagé un tiers de la population, ce qui est énorme, il y a à peine 50 ans. Donc c'était hier, clairement. On sentait qu'il fallait qu'on en sache plus, en fait, qu'on comprenne. Et donc, en arrivant rapidement à la capitale, donc à Phnom Penh, au Cambodge, on s'est dit qu'on allait donc prendre le temps de se renseigner, de comprendre ce qui s'était passé. Et donc, on a visité un site historique, c'est une ancienne prison, c'était un lycée qui a été transformé en prison slash camp de torture, voilà. Et concrètement, enfin, c'est fou de se dire que c'était il y a une cinquantaine d'années, c'était certes un peu loin de chez nous, mais quand même pas si loin non plus. Et que ça a pu se passer, quoi. Et quand même, on parle d'un tiers d'une population décimée, quoi.
Le lycée, c'est devenu, du coup, un lieu de terreur totale. Et c'est pleine ville, tu vois, vraiment pleine ville. Alors, et il y a des barbelés de partout. Tu vois, tu visites tous les bâtiments où ils ont fait soit des tortures, soit où ils étaient emprisonnés. Ouais, ça, c'est lourd de culture et d'histoire, celui-là.
Mais nécessaire, parce que après ça, tu comprends plus, du coup, la philosophie des Cambodgiens, enfin, on a du mal à imaginer le traumatisme, en fait.
Ouais, tu vois un vieux, tu sais que lui, il est passé par des trucs... la plupart des gens ont au moins un membre de leur famille, si c'est pas toute la famille, qui est passé par les Khmer Rouges, c'est-à-dire qui est mort, quoi.
Après le Cambodge, on est arrivé au Vietnam, où là, on avait un petit peu plus de connaissances de la guerre du Vietnam. C'est des choses qu'on a pu étudier à l'école, mais simplement de se rendre donc dans le pays et de se rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas simplement les Américains qui ont massacré une population et qui l'ont assouvie. Les Français ont aussi soutenu les efforts militaires américains. Et ça, bah, c'est des choses qu'on n'avait pas connaissance. Et en fait, c'est en se rendant donc au Vietnam que bah, là, on a du coup une autre vision de l'histoire et aussi de notre histoire, de notre peuple.
Il est passé au musée de la guerre à Ho Chi Minh. Et en fait, il t'explique bon, toutes les atrocités qui se sont passées, comment ils ont résisté les Vietnamiens qui étaient là sur place. Et il te parle de l'agent orange. En fait, c'est un gaz qu'ils épandaient par avion, tu vois, ils répartissaient le gaz. Et c'est des trucs, ça te fait des... Fais un enfant, ton enfant, il a un bras au milieu de la tête, tu vois. Enfin, c'est vraiment le freak show. C'est horrible, vraiment atroce.
Ce produit-là donc, a été spécialement conçu pour altérer l'ADN et donc altérer les générations futures. Donc, ouais. Déjà, rien que de se dire qu'il y a des investissements, des personnes, des têtes pensantes, en fait, extrêmement intelligentes, qui ont réfléchi, qui ont souhaité concevoir ce type de poison. Enfin, c'est assez incroyable. Et en plus de se dire que c'est derrière en fait cet agent orange là, il y a des entreprises qu'on connaît tous. De se rendre dans ce pays, je pensais pas que j'allais en apprendre plus moi sur l'histoire aussi de mon pays, du pays d'où je viens, quoi.
Au Vietnam, il y a encore des ethnies qui vivent dans les montagnes entre eux. Ils font encore plein de trucs à la main, ils utilisent des trucs de branches, des racines, des trucs comme ça, tu vois. Ils sont très liés à la forêt qui les entoure très 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 nature. Par exemple, les rites funéraires, c'est ils coupent un arbre, ils font un espèce de cercueil avec, et après on te rend à la forêt. Tu vois, c'est ça Même on te perche. Enfin, ils mettent les cercueils des fois dans les arbres en haut. Ouais.
Ils vivent en 2024.
Ouais, ouais, ouais.
D'une manière dont on n'aurait jamais pu concevoir, nous, en fait. Et...
qu'on pourrait juger avec un œil civilisé et un peu hautain de archaïque, tu vois.
Alors qu'en fait, non, c'est simplement des peuples qui ont à cœur de transmettre. Ça fait partie de leur culture, leur tradition, leur geste. La première fois où on a pu, voilà, enfin, parfois se retrouver avec Rémi un peu, entre guillemets, perdu, de pas trop savoir où on allait, et en fait les gens s'arrêtent de suite. Vous avez besoin d'aide, vous voulez aller où, comment on peut vous aider, toujours avec un sourire mais ultra communicatif. Et ça, c'est, il y a beaucoup de chaleur en fait dans la façon dont ils t'abordent, dans la façon dont tu vas interagir avec toi. Et ça, ça a été assez bluffant et en totale rupture encore une fois avec nous, ce qu'on a pu connaître.
Et c'est lié aussi à la religion aussi, de devoir aider son prochain si c'est possible. Si tu peux, tu le fais, tu aides, tu vois, c'est comme ça. Ils sont bouddhistes beaucoup, animistes aussi, donc beaucoup des croyances dans les esprits.
Ils se soignent avec les chamans, justement.
C'est les médecins du village, c'est un chaman, quoi. Et du coup, il y a aussi ce truc de bien respecter ses ancêtres et du coup, pas faire honte à ses ancêtres, qui font que pour respecter ça, ils sont obligés d'être... ils ne doivent pas s'énerver, par exemple. Tu vois, s'énerver pour eux en public, c'est la honte absolue. Les moines, ils mangent que des offrandes. Et au début, je ne comprenais pas, j'allais dans les temples, il y avait des sacs de 20 kilos de riz. En fait, c'est les fidèles, ils viennent, ils font un don et ils mettent un des sacs de 20 kilos de riz accessible pour les moines.
On a eu la chance de rencontrer une famille de Vietnamiens qui parlait vraiment, mais super bien français. Et ça nous a permis donc d'approfondir la vision des choses, leur philosophie de vie, la façon dont ils perçoivent aussi la vie et leurs enfants, leur famille. Enfin, c'était super enrichissant.
On était à Sapa, c'est dans le nord du Vietnam, donc... là-bas, c'est connu pour les rizières en terrasse. Bon, pas de chance, on y est allé que de la brume. Du coup, on a fait notre rando dans la brume, tu vois. Et donc, le truc qu'on avait pris, c'est... ils nous amènent dans le nord de Sapa. Tu dors chez une famille d'une des ethnies. Et donc, elles ont des... ce qui les caractéristique, c'est que les femmes ont des chapeaux rouges, enfin, des couvre-chefs rouges. Et en fonction de leur âge et de leur statut, donc
si elles sont
mariées, ouais, avec un enfant, ou grand-mère, ou pas encore mariée, le chapeau
varie,
tu vois. Ouais. C'est des maisons où il y a un feu au milieu de la maison, tu vois. Pour faire chauffer, t'as un feu, t'as pas des plaques, t'as un feu, tu brûles. Et au-dessus, ils mettent la viande à fumer, et ça sert pour conserver la viande, le frigo, il est... enfin, il n'y a pas de frigo, quoi. Donc ils font soit fumer, soit ils laissent le poulet vivant. Et quand ils ont besoin, je claque le poulet et ça mange le poulet, quoi. Ça, c'était drôle aussi. Hein. Ils se soignent beaucoup avec les plantes. Il y a beaucoup moins d'accès aux médicaments. Je pense qu'il y a une question d'accès et puis il y a une question de croyance et de tradition. Mais ils sont obligés de se transmettre ce savoir-là, d'aller savoir quelle plante, quelle racine... quelles feuilles, et on dort chez eux et tout, et eux, par exemple, ils ont adopté un enfant handicapé, tu vois. Alors que tu peux te dire, ils ont pas de moyens et tout, enfin, réellement, le sol, c'est de la terre, quoi, c'est pas dans leur maison, le sol, c'est de la terre. Ils ont un enfant handicapé. J'adore le karaoké, vraiment, c'est le sport national, mais d'une force, c'est l'apéro en France, tu vois, le karaoké. À ce stade-là, genre. Et donc, bah, karaoké, quoi. J'aime pas ça, même, de base. Mais là-bas, tu le fais parce que... bah, parce que t'es avec eux et que t'es une file de micro, tu vas pas lui dire non, non. Tu vois, un coup, tu fais une chanson en français, ouais. Après, tu lui dis, tiens, fais-toi une chanson en vietnamien. Et ainsi de suite, et t'échanges comme ça, c'était vraiment drôle.
On est ultra privilégiés, c'est une réalité.
C'est
enfin,
clair.
Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir vraiment mener ce type de projet-là. En attendant, l'enrichissement est tellement dingue et je ne peux que conseiller aux personnes qui peuvent de partir et vraiment de ne pas se freiner et d'y aller, quoi. Si vous avez la capacité de le faire, la possibilité de le faire, faites-vous vraiment ce cadeau parce que je sais que oui, il y a un avant et un après. Rémi l'a dit, c'est la plus belle expérience de sa vie.